Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, c'est la dernière hein, pour la saison, mais on va vous gâter hein, ce soir, comme on l'a fait tout au long de cette saison, puisqu'on va recevoir le club prestigieux et mythique du Stade français dans la première partie de cette émission. Et puis on se mettra en deuxième partie à l'heure olympique, hein, puisqu'on vous diffusera toute une série d'interviews sur le dévoilement de la flamme olympique qui a été connue la semaine dernière à la Sorbonne. Et puis on aura aussi une interview de Pierre Abadan, le maire adjoint chargé des sports pour la ville de Paris et du dossier olympique et paralympique qui a fait un petit peu le point sur le sport sur Paris pour ce début d'été. Puis on retrouvera naturellement le dernier rendez-vous foot de la saison avec notre ami Stéphane Dezenclos. On saura tout sur le marché des mercato de ces dernières heures. Allez, comme je l'ai dit, comme promis, eh bien on va recevoir un club mythique ce soir. On commence avec Charlotte Tavitian qu'on salue. Hein. Charlotte, elle était là, donc je sais qu'elle nous écoute. On va la saluer. Et puis on commence avec Nathalie Courcial, de la com du Stade français. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à Charlotte qui a joué les intermédiaires. Oui. Hein. Voilà, je vais vous demander de vous approcher un peu plus près du micro. Responsable de com du Stade français.
Oui, exactement. Depuis combien de temps ? Responsable de la com et des événements. Depuis 4-5 ans oui. En tant que membre du comité directeur et depuis un an à peu près comme salarié.
Bon, et comment on rentre au Stade français ? C'est arrivé comment ?
Ah, c'est arrivé, c'est une histoire de famille.
Bah oui, Marie, comme très souvent.
Comme souvent. Ouais. Voilà, un mari triathlète qui rentre au Stade français en 89. Et puis, le triathlon, ça prend du temps dans une vie de famille. Donc, pour partager, le plus simple, c'est de s'investir.
Oui.
Donc, participation à la section triathlon en tant que secrétaire, monter les événements de la section puisque c'est mon métier. Et puis, petit à petit, le comité directeur. Et voilà, quoi. On y rentre par passion. Toujours.
Voilà, alors je l'ai dit. Club mythique, le Stade français, on le découvrira de l'intérieur. Mais je suppose que c'est un énorme travail, responsable de la com d'un club qui a autant de sections sportives.
Oui, c'est un gros travail, mais bon, c'est passionnant. Il y a des multiples facettes, puisqu'il y a toute une partie de la com qui est toute la partie omnisport, c'est-à-dire c'est la façon générale, donc de l'image du stade, sa visibilité. Et puis, il y a toute la partie section par section, même si les sections sont autonomes, font très souvent leur com elles-mêmes, mais bon, il y a un accompagnement. Et puis, assurer aussi la cohérence de tout ça, c'est-à-dire que justement, chaque section a sa com, mais il faut que ça soit...
Vaste travail, ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais, oui. Et puis, on accueille la deuxième invitée de cette soirée, c'est Pascal Picmal. J'allais dire que c'est la présidente du tennis du Stade français. Bonsoir, Pascal.
Oui, bonsoir.
Ouais. Depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans.
4 ans dans le tennis.
Non, vous savez, plus longtemps dans le tennis, mais présidente du tennis, 4 ans.
Depuis 4 ans, présidente. Bon, le tennis, c'est votre vie, c'est ça ?
Alors c'est ma vie, c'est mon sport.
Partie, c'est, ça.
Ouais. C'est mon sport et depuis que je suis présidente du tennis, c'est devenu un peu ma vie. Mais oui, j'ai toujours joué au tennis. Je suis d'une famille de tennismen et women et je suis arrivée au Stade français quand j'ai commencé mes études à Paris en 95, donc ça fait quelques années, en tant que membre de l'équipe. Et voilà, et j'ai mis un peu mon mari au tennis, même si c'est pas son sport, mais mes enfants et qui font d'autres sports aussi au Stade français, mais le tennis.
Alors, on a voulu commencer cette émission en ayant un petit coucou pour Charlotte qui a servi d'intermédiaire parce que vous allez organiser un tournoi prestigieux là dans quelques jours de tennis. Hein.
Oui, alors c'est la 33e édition, le refait chaque année depuis longtemps, de l'Open Stade français qui est un tournoi international pour les jeunes de 14 ans et moins sur terre battue, le plus gros. Et Charlotte nous accompagne pour en faire la promotion.
Il y avait une belle conférence de presse, notre ami Abou y était. Hein. C'était en plein pendant Roland-Garros. Hein.
Ouais, le deuxième mardi de
c'était
Roland-Garros.
C'était exprès. Vous n'êtes pas loin, remarquez. Hein.
Oui, la Fédé nous soutient pour cet événement. Et c'est vrai que chaque année, nous laisse faire la conférence de presse à Roland-Garros parce que finalement, c'est comme Roland-Garros, mais pour des jeunes de 14 ans et moins. Et, et on regarde les joueurs de Roland-Garros, sont tous passés par notre tournoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ceux et celles de demain qu'on verra sur Roland-Garros.
Exactement, exactement. Enfin, demain, on va leur laisser 4-5 ans.
Oui, mais pour nous, c'est demain. Hein.
Mais on les reverra à Roland-Garros. Alors, ils n'ont pas tous gagné notre tournoi, c'est assez marrant, parce qu'à 14 ans, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont les meilleurs, mais on les reverra à Roland-Garros, les quarts de finalistes, les demi-finalistes, oui.
Alors, on en parlera, ce tournoi. Hein. C'est la semaine prochaine, c'est jusqu'au 16 juillet, c'est Terre de Champions, sur le court 14 et les annexes de Roland-Garros, les jours de la finale.
Oui, alors tout le tournoi se déroule sur notre site, dans le domaine de Saint-Cloud, à la Faisanderie. Et le 16 juillet, à Roland-Garros, sur le court numéro 14. Et on fait des animations aussi sur les terrains à côté, on fait un peu jouer et tout. Donc c'est une très belle journée.
Ouais. Alors j'ai lu en préparant l'émission qu'il y a une petite pensée, c'est normal, pour Yannick Noah. 40 ans de victoire de Noah, on en a beaucoup parlé avant Roland-Garros. Hein. On fait ce qu'on peut, c'est vrai que le tennis français est tellement descend du bas qu'on fait toujours ce qu'on peut. Hein. On commémore des victoires inoubliable. 2 euros pour Yannick Noah.
Alors, c'est pour Faites le Mur, pour l'association de Yannick Noah, pour d'insertion pour le tennis. Donc, pour Faites le Mur, effectivement. Donc, l'entrée à Roland-Garros cette année sera payante, mais pour l'association de Yannick, pour une bonne cause. J'espère qu'il passera nous voir pour la finale.
Ah oui, ça serait bien. En principe, hein, parce que, on sera, nous, sur les paramondiaux d'athlétisme. Et il est annoncé comme devant venir chanter aux paramondiaux durant la semaine. Alors, je ne sais plus quel jour, mais les paramondiaux, c'est la même semaine que vous. Oui. Donc, il y a des chances qu'il fasse un petit détour par Roland-Garros le jour des finales.
Ah, ça serait merveilleux pour tout le monde.
Allez, on va s'intéresser auparavant à l'historique de votre club, parce que quand on dit Stade français, c'est mythique. Hein. Il y a 3 clubs qui sont mythiques dans le sport francilien. Il y a le PUC, il y a le Racing Club de France et le Stade français. Quels sont vos rapports entre vous?
quand on est en compétition, c'est de la saine concurrence.
Effectivement. Oui, c'est de la saine concurrence, c'est normal, c'est le sport.
Ah, mais bien sûr. Oui. Par contre, effectivement, on regarde à chaque fois est-ce qu'on est devant ou pas. Mais c'est de la saine concurrence. Le Stade français, cette année, a 140 ans. Donc
oui, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Hein, c'est un bel anniversaire.
Exactement, donc ça fait longtemps. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'activités sportives, on regarde toujours ce qu'a fait le Racing, ce qu'a fait le PUC. Ou au tennis, ce qui est devenu le Lagardère Paris Racing. Ouais.
Et on a longtemps été, avec le Racing en particulier, qui ont que quelques années de enfin on est quasiment jumeaux dans les dates de naissance. Ouais, on a surtout beaucoup œuvré ensemble à la construction du sport en France. C'est une des particularités de ces clubs. Le PUC un peu plus tard, mais voilà. Ce qui est important de dire, c'est que toute la structuration du sport, on l'a fait ensemble. Voilà, si on est, ennemis sur les terrains, en revanche, sur la construction, sur l'engagement, on travaille ensemble.
Oui, c'est une question que j'allais poser. Ça vous arrive de travailler encore ensemble?
Là, par exemple, on va travailler avec le PUC. Le PUC va organiser au moment des mondiaux du rugby des balades à vélo dans Paris avec un architecte historien. Et en fait, qui va se balader de site en site et qui va raconter. Du coup, nous, on va être partenaire de cette opération avec le PUC, puisque, on part de Géo André, le parc, le stade Jean-Bouin, Roland-Garros. Enfin, on est quand même situé, je dirais, au cœur au cœur du Paris sportif. Et donc, sur certaines opérations, on travaille encore bien ensemble. Parfois, il nous arrive aussi d'organiser des événements en commun. Alors avec d'autres clubs, pas forcément eux, mais voilà, où donc on essaye en tous les cas sur l'animation du sport dans la ville de Paris, on essaye de travailler ensemble. On a par exemple au mois de janvier, on fait l'OMS du 16e organise un pentathlon avec les il y a le stade, il y a le polo, il y a le TCP, enfin voilà, tous les clubs et il y a forcément le Racing. Donc voilà.
Très bien. Alors, 140 ans, c'est un anniversaire. Il y a eu beaucoup de commémorations cette année pour votre club.
Alors, en fait, on a fait un choix de mettre en valeur nos sections. Oui. C'est-à-dire que chaque section a organisé ou aura organisé d'ici la fin de l'année, aura organisé un événement par rapport aux 140 ans. Alors, par exemple, la section tennis a reçu ce week-end un autre club qui a 140 ans, qui venait d'Australie.
Oula.
Voilà.
C'est bien.
On a organisé un très gros tournoi squash, on a relancé un triathlon pour les jeunes. Donc, d'un point de vue des sections, chaque section va organiser des événements. Ensuite, d'un point de vue plus omnisport, le stade est engagé sur certaines questions. Le sport au féminin, c'est un club où les femmes sont mises en valeur, où on investit beaucoup sur les féminins. Et du coup, on a fait un colloque au mois de avril, sur les enjeux du sport au féminin, comment concilier des études, une grossesse, etc. On va dévoiler le jour anniversaire, donc le 13 décembre, on dévoilera une exposition photo sur l'histoire du stade, sur nos trois sites. On va organiser la Coupe du monde de rugby parlementaire.
Ah, donc bien, ça, c'est assez, bien, bien.
Qui commence, ouais, ouais. Ah, qui oui. La finale aura lieu à la Faisanderie, qui a lieu la veille. Donc, c'est quand même 9 équipes, dont une équipe du Parlement européen.
La veille de la finale de la Coupe du monde.
La veille du démarrage du coup d'envoi.
Donc, début septembre.
Septembre, voilà, le 7 septembre. Voilà, donc en fait, on a choisi, plutôt que d'un énorme événement, on a préféré ponctuer tout au long de l'année, voilà, de rappeler qu'on était présent sur les terrains tout le temps.
Parce qu'en préparant l'émission, bon, j'invente rien, je suis allé sur votre site, je crois que vous avez 20 disciplines multisports. Hein.
Oui, tout à fait. On a 20 sections auxquelles s'ajoutent deux sections qui ne sont pas des sections, mais qui sont quand même du sport. Une section multisport, qui est l'Académie des sports, qui concerne les enfants de 4 à 12 ans, qui en fait, là, on les forme à tous les sports pour qu'après, ils puissent aller découvrir dans les autres saisons, et une fitness. Mais sinon, oui, on a 20 sections sportives.
Alors, vous allez citer, bon, il y a les sports traditionnels, hein, mais alors,
il y en a des atypiques.
Il y a des sections atypiques. Bah,
On a, par exemple, dans les atypiques, on a la natation artistique, puisqu'on est on a récupéré des sections, voilà, on nous a demandé. On a de la voile. À Paris, c'est étonnant. On a du ski.
Vous savez qu'on a reçu le président du comité de ski de Paris l'année dernière. Puis la semaine dernière, on a parlé surf. Donc, vous voyez aussi, sur Paris. Donc, vous voyez, c'est possible.
On a du hockey sur gazon, puisqu'on est le club le plus titré en France parmi les équipes, féminines ou masculines. On a du handbike. On a un double champion du monde et qui, a priori, a des bonnes chances de médaille. Enfin, qui a eu une médaille aux Jeux à Tokyo. Et on espère... encore à Paris. Puis après, on est sur du plus classique, les arts martiaux, l'athlétisme. On a de la danse, ce qui est étonnant pour un club omnisport. On a
Laetitia. C'est un véritable sport. Hein.
Voilà.
On en a aussi parlé sur notre antenne cette saison. Hein.
Le golf, handball, foot.
Est-ce qu'il y a la demande pour l'arrivée de d'autres sports?
Alors, on n'a pas forcément les installations pour accueillir d'autres sports. Après, quand on parcourt l'histoire du stade, on se rend compte qu'on a souvent été précurseurs. C'est-à-dire que souvent, nos sections ont été... la section triathlon a été une des premières sections. Le hockey, on est un des premiers clubs. On a eu des sections de cricket. On a eu une section de roller. On n'est pas fermé. Après, il y a toujours des réalités financières, des réalités d'espace à occuper. Voilà, maintenant, on a du paddle, puisqu'on a, on a des cours de paddle à la Faisanderie.
Ça, c'est le sport à la mode.
Oui. Voilà, il y a de la demande pour de l'escalade, par exemple. Oui, des sports qui sont à la mode, escalade, paddle, mais il faut le mettre, le mettre en place. Du pickleball, qui est
le pickleball,
oui, ça, aux États-Unis, ça a plus pris que le paddle. On joue un peu comme avec des raquettes de tennis de plage sur un terrain de badminton, en gros.
D'accord.
Et ça marche très très fort aux États-Unis. C'est le sport en plus forte croissance. Donc.
Oui, parce qu'il pourrait y avoir d'autres sports comme, je sais pas moi, l'ultimate, par exemple. Vous voyez, des sports encore un peu plus confidentiels.
Oui, un peu plus confidentiels. Alors, en fait, c'est souvent à l'initiative d'un stadiste qui passionné ou quelqu'un d'extérieur qui rejoint le stade et qui a envie de faire découvrir. Ou alors, c'est un stadiste de l'intérieur, par exemple, le golf. On avait plusieurs stadistes qui étaient golfeurs. Et petit à petit, hop, la passion est venue,
Alors, ça représente combien de licenciés au total pour cette saison-là, 2022-2023?
De licenciés, on a plus de 11 000 membres. Voilà. Et ce dont on tire un peu notre gloire, c'est parmi ces 11 000 membres, on en a plus de 70% qui ont moins de 25 ans.
Ah oui, ça c'est bien.
Voilà,
ça, c'est
on bien. A énormément de jeunes puisque c'est notre cœur de métier, mm-hmm. enfin, c'est vraiment notre vocation. Mm-hmm. Donc voilà, après on a dans quasiment toutes nos sections, on a une version, je dirais, loisir, où vraiment les gens sont là. L'objectif, c'est pas forcément que tout le monde puisse pratiquer et s'épanouir dans sa discipline, que vous vouliez faire du haut niveau, quel que soit votre âge, ou que ben voilà, vous avez envie de partager avec vos amis. Donc, dans quasiment chacune de nos sections, on peut dire, il y a les deux aspects, les deux façons de pratiquer, que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes.
D'ailleurs, le slogan de votre club, c'est l'art de vivre le sport. Hein,
oui.
C'est ça.
Hein, oui, c'est vraiment important.
Donc, ça résume tout.
Voilà, c'est ouais. L'idée, c'est vraiment d'accompagner chacun dans sa pratique sportive et de permettre à chacun, on est convaincu que l'activité sportive est un moyen d'épanouissement. Nous, on pratique, la faisanderie s'y prête beaucoup, mais on pratique au stade, on a aussi beaucoup de familles. Mmh. Pascal le disait tout à l'heure, ses enfants sont au stade. Moi, j'ai une famille sur quatre enfants, il y en avait trois qui étaient stadistes. Voilà, il y a vraiment une...
Ah, faut pas qu'il y en ait un qui soit au PUC ou bien au Racing.
Non, ça, c'est pas possible. Il y a des conflits de couleurs.
Bon, quel est le sport qui regroupe le plus grand nombre de licenciés? Le tennis, non?
Le tennis, oui. Ouais.
Le tennis, Pascal, c'est la palme.
Oui, ouais, Pascal, combien?
Mais le tennis, on a plus de 2000 licenciés.
2000 licenciés, c'est bien.
Ouais. Ouais,
Autant de femmes que d'hommes?
Non, mais non. Beaucoup de femmes, oui. Quand même. On est à un tiers, entre
oui,
un tiers
ça,
et 40% de femmes.
Les femmes ont beaucoup pratiqué le tennis. Bah, hein,
le tennis, au niveau national, je pense oui. que c'est le sport qui a le plus de licenciés féminins. C'est même si ce n'est pas 50%, c'est quand même le plus gros sport féminin en France, je pense, le tennis, en termes de licenciés. Parce qu'après, c'est vrai que la danse n'a pas de licenciés, le fitness non plus. Mais voilà, donc nous, on a un gros tiers, on est un peu plus que la moyenne nationale en féminin au tennis. On a surtout de très belles équipes féminines. Nos meilleures joueuses sont des femmes. Ouais.
Alors vous, c'est pareil, il y en a qui font du tennis à tous les niveaux, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories d'âge, mais aussi tennis loisir.
Ah mais bien sûr, bien sûr.
Pas que compétition.
Bien sûr, sur les 2000 licenciés, la plupart sont tennis loisir. C'est un quart de licenciés qui pratiquent de la compétition et peut-être 10% qui en pratiquent de la compétition intensive. Donc c'est pour tout le monde. Après, on a remis une politique d'apprendre à jouer un match parce que finalement, c'est le défaut de l'école de tennis. Et c'est ce qu'on travaille aussi avec le PUC, on est ensemble dans ce projet. C'est que on a eu des années où à l'école de tennis, on apprenait à renvoyer des balles. Mais personne ne va jouer pendant les vacances avec ses cousins à renvoyer la balle. Tous les enfants veulent faire un match. Donc on a remis le match au cœur du projet. Mais match, on n'est pas Yannick Noah. Tout le monde n'est pas Yannick Noah.
Alors, on parlait de votre tournoi qui va avoir lieu. C'est le rendez-vous de l'année.
Sur terre battue, ouais, c'est le rendez-vous de l'année. Et tout le monde peut y participer. Alors maintenant, c'est trop tard, c'est pour cette année. Oui. Là, maintenant, on en est aux qualifications nationales. Ouais. Donc ça commence déjà à être un très, très beau niveau. Mais si vous avez 14 ans ou moins de 14 ans, alors 14 ans en 2024 ou moins de 14 ans, eh bien, allez-y, même si vous n'avez jamais fait un match, on organise ce qu'on appelle des start and go avec des découvertes de la compétition où on a eu plus de 300 enfants qui ont participé pendant l'année. Donc ils font plusieurs matchs, ils sont coachés, ils sont accompagnés. Alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a commencé au start and go débutant et qui a gagné le tournoi. Mais, donc c'est très loin. Mais en tout cas, on a mis pas mal d'enfants à la découverte du jeu et de la compétition et c'est des expériences fabuleuses. Ils s'y inscrivent plusieurs fois sur la saison. Donc c'est très très important. C'est pour ça qu'on appelle ça un open. C'est que c'est toujours dans les valeurs du stade, de l'éducation des jeunes. C'est aussi la possibilité pour tous de participer au tournoi et rêver de devenir un champion un jour.
Oui. Alors, est-ce que vous avez eu un jour des problèmes d'effectifs en tennis? Parce qu'on sait qu'à un moment, il y a beaucoup de clubs de tennis qui ont manqué d'une certaine catégorie d'âge. Est-ce que ça a été aussi chez vous le cas?
Oui, alors les...
Aujourd'hui, je pense que c'est remonté, mais à un moment, bon, il y a eu l'embellie, on se rappelle, hein, des années 80. Après, il y a eu un petit creux de certaines catégories de licenciés. Et puis là, maintenant, ça semble être parti.
Oui, alors il y a eu un creux pendant une période... Alors, nous, on est à Paris et l'ouest de Paris. Le tennis est toujours resté assez dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit creux. Et nous, dans notre club qui est dans un parc un peu à l'extérieur, moins accessible en transport en commun, c'est vrai que la catégorie d'âge 20-35 ans, elle est moins présente. On a beaucoup d'enfants et de parents.
Mais vous êtes à Géo André, là, c'est ça?
Non, on joue beaucoup à l'extérieur, à la faisanderie dans le domaine de Saint-Cloud,
d'accord,
où se déroule le tournoi. Oui.
D'accord. Okay.
Donc c'est vrai qu'il y en a eu moins. Bon, les clubs avec des cotisations à l'année, c'était moins flexible que ce qu'attendent parfois les plus jeunes, mais voilà.
Alors, au début de l'émission, on disait qu'on vivait un peu dans le souvenir. Fatalement, hein, ça enlève aussi d'éventuels pratiquants et pratiquantes. On aurait à nouveau un Français qui gagnerait Roland-Garros ou une Française qui gagnerait Roland-Garros. On sait qu'il y a toujours un effet boule de neige.
Oui, alors c'est vrai qu'au tennis, nous, on a la chance d'avoir Roland-Garros. Donc déjà, il y a un effet, mais c'est sûr que si on pouvait avoir une Française et un Français qui gagnent, ça serait un énorme effet boule de neige et motivant pour les jeunes et les moins jeunes. Oui.
Et c'est pareil dans tous les sports, hein, Nathalie. Hein, c'est pareil. Les champions et les championnes qu'on voit à la télé, on s'identifie et ça attire.
On l'a vu beaucoup en escrime, par exemple, où il y a eu un pic. Avec l'escrime, en judo aussi. Voilà, c'est clairement, c'est, sur certains sports, en tous les cas, c'est vraiment clairement identifié.
Oui. Vous avez aussi donc des écoles.
Alors, en fait, on a, sur nos 20 sections sportives, il faut savoir qu'on a 19 sections qui sont labellisées, qui ont une école labellisée.
C'est-à-dire, labellisée, c'est-à-dire qu'on commence l'activité très jeune.
Oui, voilà. Et puis, surtout, qui sont reconnus par les fédés comme un enseignement et une qualité qui ont un label, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, selon les sections. Mais c'est vraiment très important. Et on a une section, par exemple, basket, la section basket. Ils ont du baby basket qui commence à 3 ans.
3 ans.
Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Bah, c'est les gestes du sport. Après, on a l'Académie des sports donc, qui commence à 4 ans, où là, l'objectif, c'est d'apprendre les règles, d'apprendre les gestes sportifs, de donner le goût aux enfants des différentes activités. Et puis voilà, après, qu'ils puissent s'orienter vers les sections.
Est-ce que les jeunes qui arrivent au Stade français, jeunes ou garçons et filles, restent en général dans leur sport, il y a un turnover comme dans beaucoup de clubs.
Ce que je disais tout à l'heure, la particularité du club, c'est aussi comme les vieux clubs parisiens, c'est-à-dire que c'est des clubs très familiaux où on joue, on rentre et on reste en famille. Donc, je pense qu'on a cette chance-là. Après, comme beaucoup de clubs, on a un trou à l'adolescence. Hein, c'est toujours compliqué de garder
vous
des
ados. Ouais.
C'est plus compliqué de garder des ados. Et ça, c'est vrai. C'est vrai comme ça. Après, je pense que quand on est stadiste, on reste un stadiste de cœur.
Après, on se met dirigeant ou dirigeante.
Voilà, il y a beaucoup. Il y en a qui ont fait toute leur carrière, je dirais, sportive, et puis qui sont devenus. Je pense à quelqu'un qui est au comité directeur, qui est Marie Bourasso, qui a été athlète de haut niveau, qui a commencé comme athlète de hand plusieurs fois internationale, et puis elle est devenue dirigeante de section, et puis elle est rentrée au comité directeur. Voilà, il y a vraiment un attachement au club. J'en suis. Alors, en tous les cas, je le vois.
Comment ça se passe si, après cette émission, certains et certaines veulent venir vous rejoindre à la rentrée? Vous avez un grand forum d'associations. Comment ça va se passer avec toutes ces multitudes d'activités sportives?
On a déjà fait notre journée porte ouverte, mais ce n'est pas grave. on l'a fait tout début juin. Parce qu'en fait, on a observé au fil des années, et puis c'était un travail commun avec les autres clubs du territoire du 16e, c'était de se dire, on va tous faire nos journées portes ouvertes la même semaine, comme ça les parents en juin, c'est pas mal. Après, il suffit de... sur notre site, chacune de nos sections a les coordonnées, etc.
Ouais, j'y suis allé, moi. Hein. C'est vrai que, on va sur le site
du Stade français. Vous choisissez le sport.
Et on voit tous les sports. Et après, il suffit de...
Voilà, vous allez à l'accueil, à Géo André, c'est pareil.
Géo André, c'est rue du commandant Guilbeault.
C'est à côté du parc.
Eh ben oui, quand on va au Parc des Princes, on est obligé de passer devant. Combien de fois je suis passé devant?
Quand on va à Géo André, on voit le Parc des Princes.
Non, mais combien de fois? Et souvent, malheureusement, cette rue, maintenant, elle est bloquée les soirs de match. Hein. On fait le détour. Hein. Bon, enfin, bon.
Pas que les soirs, mais même les après-midi.
Ah bon?
Les soirs de grand match.
Oui. Je sais qu'on fait le détour.
Mais voilà, après, il suffit de prendre contact avec nos sections. Et toutes nos sections, on a des sections qui ont plus ou moins de place, parce qu'il y a des sections qui sont chargées. Mais il faut aussi rassurer les parents et les adultes. Souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, on est un club mythique. Et du coup, les gens ont l'impression... Moi, quand j'étais à la section triathlon, je recevais des CV sportifs. J'ai fait ça, je cours en tant de minutes. Non, non, attendez. Venez, on vous accueille, quel que soit votre niveau. Et ça, c'est vraiment important, je le répète, pour toutes les sections, on est un club très ouvert et vraiment, voilà, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent découvrir.
Après, les cotisations, ça varie en fonction des sports. Hein, de la
voilà, ça varie
des sports,
en fonction
si on vous
des,
le dira,
des...
Si on vous le dira
voilà,
après exactement. Votre envoi sur le site internet.
Ouais. Voilà.
Est-ce qu'il y a des clubs qui refusent? Est-ce qu'on peut avoir des refus?
Alors, il y a certaines de nos sections qui sont...
clubs qui sont full. Comme
voilà, on a certaines de nos sections qui sont plus complètes que d'autres. Mais j'ai pas les chiffres cette année.
Par exemple, le tennis qui connaît un fort succès, vous pourriez être amené à refuser du monde?
Alors, il y a effectivement des clubs autour de nous qui refusent. Nous, on essaie toujours de trouver une solution pour prendre au maximum. Après, voilà, on n'arrive pas tout le temps à rentrer dans tous les critères, la même heure que le frère avant la danse, après le basket, etc. Donc, mais on essaie de toujours trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, parfois, on refuse, on peut se retrouver à refuser. Mais on essaie d'éviter, parce que c'est quand même vraiment notre politique et notre mission, l'éducation des jeunes. Donc, tant qu'on peut remplir et accepter des enfants à l'école de tennis, on le fait.
Et puis, dans l'eau, il y a des sportifs et sportifs de haut niveau, fatalement, avec tout ce nombre. Donc, vous en avez quand même été médaillé, j'ai vu. Hein,
oui,
on
a Riyad Tarsim, donc en handbike. Oui. On a Stéphanie Jiquel, qui fait de l'ultra-trail, qui vient de gagner là ce week-end l'ultramarin. On a Anjaber, qui est licencié à la section tennis. On a Valentin Bertrand, qui a été sélectionné, qui va courir là les championnats du monde des paras. On a notre équipe, nos équipes de basket qui sont en National 1, notre équipe féminine, on a notre équipe de volley. Voilà, on a Marion Legrand qui a été vice-championne du monde de duathlon.
C'est vrai que dans l'eau, fatalement dans l'eau, il y en a toujours qui émergent,
voilà,
hein, c'est fatal.
Et puis
si ce n'est pas la philosophie du club au départ.
Ah, mais alors, c'est aussi la philosophie du club. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est que si vous voulez faire du loisir, vous voulez faire du loisir, mais on accompagne aussi le haut niveau. C'est-à-dire alors nos jeunes, on a ce qu'on appelle la Team 2024. Donc, c'est des jeunes qu'on encadre, qu'on accompagne, qui sont soutenus pour certains par la ville de Paris. Et là, l'idée, c'est eux de leur permettre. On a des sections dans lesquelles, par exemple, en triathlon, en natation synchronisée, où on a des
c'est-à-dire que vous passez des
sections sport-études.
Oui, vous passez des accords avec des écoles, voire même des entreprises, pour que
Pour qu'ils soient, par exemple, en natation synchro ou en triathlon, ils n'ont pas cours certains après-midi pour pouvoir s'entraîner. Voilà, et on cherche toujours à les accompagner au maximum aussi vers le haut niveau. C'est la double. Enfin, on a vraiment cette double stratégie, c'est-à-dire que et toujours vraiment très porté sur les jeunes, puisque comme le disait Pascal, c'est notre mission. Mais on essaye. On a un jeune
au tennis
qui marche super bien.
Aujourd'hui, un sportif de haut niveau sur 10 à Paris est au Stade français dans 11 disciplines différentes. Parce qu'il y a des clubs qui ont beaucoup de sportifs de haut niveau, mais dans une seule discipline. Oui. Nous, c'est 11 disciplines différentes et 1 sur 10, ce qui est énorme. Mais c'est vrai que c'est les moteurs de chaque section sportive et du club.
Avec toutes les valeurs que le sport peut inculquer. Hein. C'est ça aussi qui est important. Hein. Le partage, l'humilité, tout ça, ça c'est important. Quoi.
Oui, et donc on a beaucoup de sportifs de haut niveau jeunes et on a aussi beaucoup de vétérans sportifs de haut niveau qui continuent à être au stade, à pratiquer leur sport, à encadrer des jeunes.
Master.
Parce qu'on pense que c'est quand même vraiment une belle image pour les jeunes... loisirs, compétition ou très haut niveau.
Et puis, avant d'envoyer la pause musicale, couleur bleue et rouge. Hein.
Oui.
Ouais. Ça date de quoi?
Alors,
le
couleurs
rouge,
ont
c'est
été
le sang,
choisis
le bleu, c'est la République.
Alors, le bleu, c'est Oxford.
Ah oui, Cambridge, non?
Ouais, ben non. Non, le Racing avait choisi Cambridge.
Ah oui.
Donc, on a choisi le bleu d'Oxford et le rouge, c'est la ville de Paris.
Ah oui, voilà.
Voilà. Alors, on n'est pas. C'est de la tradition orale. Il n'y a pas de tradition écrite, autant on a des historiens.
Les maillots, c'est tout, la connotation
bleu
et rouge, dans tous les sports,
avec les
SF, là.
Voilà, avec les cuissons du Stade français.
Très bien. Allez, la première pause musicale, je crois que ça sera donc Madonna, Holiday, c'est ça? Oui. Allez, on y va. Et oui, juste avant les vacances, hein, donc Madonna pour Holiday. Mais avant les vacances, il y a encore un peu d'efforts à faire sur le plan sportif. Hein. Où est-ce que vous pratiquez toutes vos disciplines ? Parce que vu le nombre de pratiquants, de pratiquantes, ça doit être quand même assez compliqué parfois.
Alors, on a quatre sites.
Oui, donc, alors on va les rappeler.
Voilà, on va la rappeler. On a donc Géo-André.
Donc, c'est à côté,
ça, c'est à côté du Parc des Princes, de rue du Commandant Guilbault, qu'accueille le judo, l'escrime et nos sports co, c'est-à-dire le volley, le basket, le hand et le badminton.
Tout le monde arrive à s'entendre.
Non, le squash. Alors, il y a
des créneaux.
Des créneaux. Et puis, nos sections jouent aussi dans d'autres stades autour de Géo. On ne peut pas être tous là.
Géo, ce sont vos propres installations. Ça appartient au Stade français.
Ça appartient à la ville de Paris.
Voilà. Non, mais qu'on soit clair pour les.
Voilà, Géo-André appartient à la ville de Paris. C'est une concession.
C'est-à-dire
on n'a que des concessions.
Ah oui. Ouais, comme le Parc des Princes. Quoi.
Voilà. Mais on finance les installations dans les concessions.
Ouais, voilà, c'est nous qui finançons.
On paie la location et on paie les travaux, les constructions, etc.
D'accord.
Ensuite, on a la Faisanderie, donc là où la section tennis s'entraîne.
Donc ça, c'est vers Saint-Cloud, c'est ça ?
Ça, c'est à l'intérieur. C'est une concession qui est à l'intérieur du domaine national de Saint-Cloud. Donc là, on a le tennis et le tennis.
Et un fitness. Peu
le et le fitness.
Oui. Ouais.
Ensuite, on a le Hara Lupin, où là, on a le hockey qui est à Vaucresson, où là, on a un golf, un 9 trous, le hockey sur gazon, le foot et...
Du rugby.
D'accord.
Voilà. Et le dernier, c'est Courson, où c'est un golf 18 trous, qui est exploité par Ugolf, mais qui est stade français.
Et les autres sports ? Où est-ce qu'il se pratique ?
Alors, l'athlétisme différents Neuilly, sur les différents stades, à Neuilly. Je dirais qu'on joue sur les
autres... La natation synchro, par exemple, ou artistique.
Alors, la natation synchro, ils sont répartis. Ils ont une piscine à Montreuil, une piscine à Montparnasse. Le triathlon, ils sont à Keller, Monterland, et puis sur l'île de la Jatte. Enfin, voilà, on est obligés.
Je sais que c'était pareil pour le Paris Saint-Germain handball, qui, je crois, jouait avec ses équipes dans 11 arrondissements de Paris. Mais c'est facile de coordonner tout ça, quand même.
Non,
on arrive à faire un club ? Parce que finalement, on ne se voit jamais.
Alors, oui et non. Parce que, déjà, il y a pour le tennis, la Faisanderie et tout, là, c'est un club, c'est un vrai club à house. Après, à Géo, quand même, on se croise. Et puis, oui, je pense qu'on y arrive parce qu'on essaye de créer des événements communs. Et puis, même si les gens restent attachés à leur section, ils savent qu'ils sont stadistes. Donc, c'est la difficulté des clubs omnisports.
Surtout des clubs aussi importants.
On a un gros travail de newsletter, de lettres, d'informations, où toutes les semaines, Nathalie s'en occupe, diffuse les résultats, les performances, les événements, tout le monde est attaché au bleu et rouge. Oui.
Voilà, on essaye au maximum de créer ce lien et puis on essaye petit à petit de créer des événements. Bon, il y a la journée porte ouverte,
Vous faites une grande journée entre vous,
cette année, on organise des Olympiades pour les 8-10 ans. D'accord. Avec toutes nos sections sportives. On a des soirées des champions au moment de l'AG où il y en a une remise de médailles. Voilà, on essaye. Et puis, à chaque événement, par exemple, à l'Open de tennis, toutes les sections sont invitées à aller à la finale. On essaye aussi de faire venir les jeunes des sections dans les sections. Dans les événements.
Oui, c'est ça.
Nos stages... Quasiment toutes nos sections organisent des stages à toutes les vacances scolaires. C'est-à-dire que vous pouvez... Et l'avantage de nos stages, c'est que vous pouvez être membre et vous pouvez être non-membre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être membre pour participer au stage. Donc, c'est aussi, pour nous, un moyen d'accueillir d'autres jeunes et de leur faire découvrir le club.
Alors, il y a d'autres grands événements, autres que le tennis. C'était l'Équidène, il y a quelques semaines.
Oui,
alors on en parle de ça, ça marche bien. Bon, le PSG, ils ont fait leur course, les 10 km du PSG ce week-end au Parc des Princes.
Oui.
Mais vous aviez l'Équidène à Jambouin.
Voilà, nous on avait l'Équidène. Donc l'Équidène, je rappelle, c'est un marathon en relais de 6 personnes. Donc ça, c'est organisé, on l'organise en partenariat avec le Stade français rugby. Donc départ et arrivée dans Jambouin. Et c'est vraiment, je dirais qu'on y retrouve les valeurs du stade et les valeurs du rugby. C'est-à-dire que c'est vraiment bonne ambiance, super bon enfant. Six relayeurs, alors il y en a, c'est 5 km, 2 fois 10, 3 fois 5 et 1 fois 7,5. Donc je dirais que c'est pareil, c'est pour tout niveau. Alors on avait bien sûr l'élite, hein, des
coureurs très, très, très rapides. C'est Versailles qui a gagné cette année. Hein. C'est Versailles qui a gagné, exactement. C'est ce que j'ai vu. Une équipe féminine deuxième.
Voilà. Ouais. Mais c'est aussi un événement qu'on peut faire en famille. Mm-hmm. Voilà, et c'est un bel événement. Et puis arriver dans Jambouin.
Bah oui. Jambouin, ah, justement, ça tombe bien. On les avait reçus, hein, la section du Stade français, au mois de janvier. Et puis ils étaient en partenariat pour la maison de la performance sportive. Ils avaient participé, ils avaient animé un colloque donc chez eux à Jambouin en novembre. Ils étaient venus nous parler de leur partenariat avec donc dans le cadre de la maison de la haute performance sportive avec Émilie Thouy, l'ancienne karatéka. Quels sont vos rapports avec la section professionnelle pour le rugby? C'est vraiment c'est la même entité ou...
Non, c'est... Alors, ils utilisent la licence du Stade français pour jouer, mais après, c'est une société différente. Oui, c'est vrai que nous, on est amateurs, on est une association sportive
amateur.
Dès
qu'on arrive, c'est comme le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Ouais. Pour le handball, le foot, c'est pareil. Hein.
Ouais. Ouais. Par contre, on a une association liée qui est la partie... qui est la partie amateur avec leur école de formation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'une équipe devient professionnelle, ça ne peut plus rester dans le giron du Stade français Omnisport.
C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas stadiste quand ils font les matchs?
Ah si, bien sûr.
Si, bien sûr. Quand même.
Oui, puis bien sûr. On reste très liés. Le Thomas Lombard à notre comité directeur. Notre président est au conseil d'administration du rugby. Enfin, ça reste, les liens restent forts.
Dans les publications de résultats, il y a toujours, bien entendu, les résultats du rugby professionnel, bien sûr.
Paris 2024, donc on a tous hâte d'y être. Hein. On le sait, c'est bientôt dans un an. On va écouter des interviews tout à l'heure qu'on a faites concernant donc, le dévoilement de la flamme olympique qui arrivera en France et qui a été aussi connu aujourd'hui, le parcours sur Paris. On aura pratiquement tous les arrondissements qui ne seront pas donc, oubliés. Tous les grands monuments seront, ne seront pas oubliés. On passera devant et puis ça sera les quartiers plus populaires dans la deuxième journée. Ça sera les 14 et 15 juillet. Vous avez des actions communes ou dans le cadre de Paris 2024 ?
Alors déjà, pour tout sportif, avoir la chance d'avoir les Jeux Olympiques à Paris en 2024, je pense que c'est quand même le rêve.
Vous allez être bénévole, vous allez faire le relais, vous allez faire justement le parcours de la flamme olympique.
Il faut qu'on organise. Oui. Pour le moment,
sympa que les grands clubs parisiens, le PUC, le Racing ou le Stade français, justement, s'investissent.
Alors, on est pour l'instant assez peu sollicités. Alors, c'est vrai qu'on est... la mairie de Paris, là, va... Par exemple, nous invite nos sportifs sur certains événements, nous offre en billetterie, par exemple, pour les mondiaux de para-athlée, etc. Oui.
Bon, on y sera, nous. Hein. On y sera, c'est la semaine prochaine. Hein. Oui. En même temps que le tour de tennis, désolé.
On peut aller aux deux. Hein.
Et puis après, il y a... Oui, voilà, c'est plus... Il n'y en a aucune de nos installations qui a été retenue pour les Jeux. Après, on est sollicité pour des espaces de vie, je dirais... par exemple, Géo André pour du stockage.
Oui, il y en a qui vont venir s'entraîner aussi, peut-être, non ? Il n'y a pas même pas.
Peut-être
même
à la Faisanderie pour le tennis,
comme pendant Roland Garros. Pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas été. Je pense que ça va aussi monter. Les équipes vont peut-être, et les différentes nations vont peut-être nous solliciter. Après, on a aussi. Il y avait l'Olympiade culturelle en parallèle. Mmh. Donc là, on a déposé la candidature. Bon, on attend encore des retours. Voilà, mais il n'y a pas vraiment d'action.
Il y a les Espoirs 2024. Donc, c'est les jeunes sportifs qui ont un espoir de participer aux Jeux Olympiques.
Qui sont financés par la ville de Paris. Il y a dans le... Je ne sais pas si vous... La ville de Paris a fait nos athlètes 2024. Bon, il y a comme ambassadeur, il y a Riyad Tarsim, donc un athlète en handbike. On a Lucie Belbéoc aussi, qui est dans ces athlètes-là. Voilà. Il y a un soutien financier à nos athlètes qui sont susceptibles de... qu'on espère aux Jeux et médaillés.
Mais c'est vrai que nous, on aurait bien aimé que certaines de nos installations soient retenues parce que c'est vrai qu'il y a toute une politique d'héritage à Paris 2024 et c'est vrai que nous, on a tellement de jeunes qu'on forme d'écoles de jeunes. Mais c'est un peu, on se considère un peu oublié.
En tout cas,
mais...
la femme, elle va passer pas bien loin. Hein, je l'ai dit, hein, c'était au musée Carnavalet ce matin. On connaît le parcours. Hein, 14 et 15 juillet. Donc 14 juillet, il y aura naturellement les Champs-Élysées, Assemblée nationale, Saint-Germain-des-Prés, le Sénat, le Panthéon, le Quartier latin, hein, Notre-Dame de Paris, le Mémorial de la Shoah, le musée Carnavalet, donc la maison de Victor Hugo, Bastille, le Bataclan, République, la place du colonel Fabien, l'Olympia, la rue de Rivoli, et puis naturellement l'hôtel de ville. Hein, ce sont les principaux monuments. Ouais. Patrimoine historique. Et le lendemain, ça sera dans des coins plus populaires. Il y aura l'INSEP à Vincennes, il y aura la butte Montmartre, il y aura la porte de la Chapelle, il y aura la Goutte d'Or, il y aura notamment aussi la maison de la solitude d'Alexandre Dumas, l'Arc de Triomphe, le Bois de Boulogne, Roland-Garros, vous voyez, on ne sera pas loin, oui. La butte aux Cailles, tout près d'ici, donc dans le 13e, et puis le musée du street art à ciel ouvert également dans le 13e. Donc vous voyez, rien n'a été oublié, hein, ça a été présenté ce matin.
C'est un très beau parcours. Oui,
oui, oui. Donc vous aurez peut-être la possibilité de...
Bah, on espère. Hein,
de le voir et
je sais qu'il
participer.
Traverse dans le 92, normalement, il traverse le parc aussi, il traverse le domaine de Saint-Cloud. Oui. Voilà, bon. Les choses vont encore se mettre en place, on espère.
Alors justement, eh ben, on y était. Hein, donc à la présentation, je l'ai dit, de cette femme olympique, c'était la semaine dernière dans un autre lieu mythique, hein, la Sorbonne. Pourquoi ? Bah, parce que c'est là que donc, le baron de Coubertin, en 1894, avait lancé donc, l'idée des Jeux olympiques. Alors naturellement, hein, bah, il y avait tout un cérémonial. Hein, et notamment, on a des parrains et des marraines. Alors parmi les parrains, eh ben, on aura Laure Manaudou. On a aussi Florent Manaudou. On va les écouter. On a eu l'occasion donc d'en rencontrer certains en commun avec naturellement nos consoeurs et nos confrères de la presse. On va écouter. Oh, vous allez voir. On va rigoler. Jamel Debbouze. Eh oui, c'est un des ambassadeurs. Il nous a quand même confié quelques mots. Et lui aussi se prépare pour participer donc à cette flamme olympique et à ce parcours.
Ah bon ? Ouais. Je suis très heureux d'être ici, très ému, très flatté. Porter la flamme olympique, c'est un rêve absolu. C'est je sais pas comment dire, j'ai pas de mots.
Vous allez vous entraîner ?
Mais j'ai un cardio de fou, déjà. Ouais, je vais un peu bosser là.
Ouais.
Ben ouais, j'ai Thomas Pesquet qui est capitaine de l'autre équipe et qui va nous faire cavaler un peu.
Et puis il y a un peu de muscu du bras parce qu'il faut la porter quand même.
Faut la porter, mais ça, vous l'avez vu la flamme, vous ?
Elle est lourde. Je sais pas encore.
Ouais, je sais pas si elle est lourde. J'ai aucune idée de comment elle sera. Mais je me fais une joie et je vous jure, je suis très très excité à l'idée de la porter. Ouais, c'est une responsabilité, c'est une vraie responsabilité. C'est pas rien, porter la flamme olympique, cousin. Oh, t'es fou quoi, toi ?
Merci.
Bon, ben voilà. Allez, ça c'est bon, merci.
Merci, Zaza.
Voilà, ça c'est du Jamel Debbouze, hein, tout craché, ambassadeur donc pour Paris 2024. Il faut tout dire qu'il est passé devant nous, il voulait pas parler, on l'a interpellé, il est venu très gentiment donc au micro se confesser. Il y aura effectivement donc Laure et Florent Manaudou qui seront les capitaines, mais il y aura aussi des parrains olympiques, hein, Mona Francis et Dimitri Pavadé, et puis il y aura des ambassadeurs, donc Jamel Debbouze qui en fera partie. Il y aura Marine l'Orphelin qui est une médecin, mais passionnée de sport, ça sera plus le côté santé qu'elle abordera. Il y aura Thierry Marx, restaurateur, pour montrer un petit peu le patrimoine de notre pays en matière culinaire. Et puis, il y aura naturellement Thomas Pesquet pour le dépassement de soi à travers donc, ce qu'il a fait en tant que spationaute. Alors, on va écouter Tony Estanguet, naturellement, hein, qu'on a très souvent à ce micro, nous présenter un peu mieux les contours de cette flamme olympique 2024. On va rappeler qu'elle franchira 36 territoires. Donc, Tony Estanguet.
J'imagine qu'il y a pas mal d'émotions de se dire « Ouais, cette flamme, ça y est, on rentre encore un peu plus dans le vif du sujet. »
Ouais, c'est génial. C'est un très grand moment pour la vie de ce projet Paris 2024. Ça devient très concret. On va aller à la rencontre de millions de Français dans 64 territoires. C'est le fruit d'une énorme collaboration avec les départements de France. Plus de 400 villes ont souhaité accueillir le relais de la flamme. C'est magique pour nous, c'est formidable parce que ce relais, il a de la gueule, il va être spectaculaire, il va être magique, il va être national, il va être sportif. On a une énorme mobilisation des athlètes qui rêvent de porter cette flamme, qui seront nombreux à la porter. Même s'il n'y aura pas que des athlètes qui porteront la flamme, on veut aussi qu'il y ait des anonymes, on veut aussi célébrer finalement toutes celles et ceux qui font la réussite de notre pays, et c'est important aussi de les associer, même s'ils ne sont pas connectés au monde du sport. Donc voilà, c'est un grand moment pour moi, pour la vie de ce projet, parce que je sens un enthousiasme et je sens une envie très forte de beaucoup d'acteurs de réussir ce projet avec nous.
Il y avait beaucoup de candidats pour faire passer cette flamme, comment ça s'est passé concrètement ?
Ouais, en fait, on a essayé, nous, plutôt que de choisir arbitrairement comme on aurait pu le faire, voilà, on avait imaginé entre 40 et 50 territoires pour réussir à avoir une représentativité nationale suffisante pour dire on a organisé un beau relais de la flamme. On s'est dit, non, c'est pas nous qui allons prendre les devants, on va faire un appel à candidature. Et on a, devant les départements de France, lors d'une assemblée, je me suis exprimé, je leur ai dit, voilà, on va organiser le relais de la flamme et je vous propose, si vous le souhaitez, être candidat, venez organiser le relais de la flamme avec nous. Et on est ravis parce que grâce à cette méthodologie-là, on a réussi finalement à dépasser notre objectif. Et aujourd'hui, on a 64 territoires qui vont accueillir le relais de la flamme avec une diversité assez incroyable en outre-mer, en montagne, les océans, la mer, les plages du débarquement. Il y en a aux quatre coins de la France. C'est assez, assez dingue et ça, c'est encore une fois le résultat d'une mobilisation nationale.
Justement, dans les Outre-mer, comment ça va se mettre en place logistiquement? Parce que vous êtes pas censé arriver en Guadeloupe, vous êtes à la Réunion le 12 et le 13 en Polynésie, ça se passe comment?
Oui, alors effectivement, en fait, on va partir de Brest, en voilier vers les Antilles. Et pendant cette semaine de traversée, parce qu'il faut quand même une semaine en voilier pour relier les Antilles, on va en profiter pour justement célébrer les Outre-mer. C'est le relais des océans et donc on va commencer par la Guyane, puis la Réunion, puis la Polynésie française, le temps que le Maxi Banque Populaire 11 de Armel Lecléac arrive en Guadeloupe le 15 juin pour ensuite célébrer la Guadeloupe, puis la Martinique et ensuite on reviendra dans l'Hexagone à Nice le 18 juin.
La flamme n'ira pas vraiment en Guyane, à la Réunion et à la flamme originale, celle qui sera partie de Brest, ne passera pas dans ces trois premiers territoires.
Alors en fait, ce qui se passe traditionnellement, j'ai aussi appris tout ça depuis quelques mois maintenant, c'est qu'au moment de l'allumage à Olympie, on allume une torche, mais on a aussi une lanterne. On a plusieurs lanternes qui permettent, au cas où la flamme s'éteigne, de pouvoir réallumer la torche avec cette lanterne. Et donc ces quelques lanternes qui sont allumées à Olympie seront envoyées dans ces outre-mer pour que au moment où effectivement le voilier ou qu'on arrive en Guyane par exemple, on puisse célébrer le passage du relais de la flamme. Donc ce sera bien à chaque fois la flamme originelle allumée à Olympie.
Capacité de rassembler de la flamme. Il y a besoin de rassembler les Français autour de ce projet. Vous sentez, c'est parfois compliqué d'adhérer
Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un engouement qui est très fort. On l'a vécu quand même, y compris ces derniers mois. Le lancement de la billetterie, même si ça a généré des frustrations, a été quand même une mobilisation très forte. 4 millions de personnes, c'est sans précédent selon le CIO que aussi longtemps à l'avance, il y ait déjà près de 7 millions de billets qui soient vendus. Dans beaucoup de sports, on a vendu la quasi-totalité des billets à plus d'un an des Jeux. Le programme des volontaires, voilà, plus de 300 000 candidats en quelques semaines. Là, le relais de la flamme, il y a un engouement très important. On reçoit des demandes de partout. Donc cet engouement, il existe. Et à nous de continuer à le préserver. On a plus de 4 millions de membres du Club Paris 2024. On a plus de 4 000 villes qui sont terres de jeux 2024 qui mettent régulièrement en place des animations comme dans les écoles. Et là aussi, j'en veux pour preuve que la dernière édition de la semaine olympique et paralympique dans les écoles a mobilisé plus d'un million d'élèves. Donc voilà, il y a quand même un engouement très fort et c'est mon objectif de continuer justement à ouvrir grand ces jeux pour que ce soit une belle fête populaire.
Merci. Voilà, donc ça c'était Tony Estanguet. C'est 64 territoires naturellement traversés, c'est 32 qu'on refusait. Donc on l'a dit, 400 villes qui seront traversées, et notamment donc, tous les grands monuments aussi, les Antilles, le Mont-Saint-Michel, les grottes de Lascaux et le château de Versailles. Et puis il y aura ce parcours qui partira effectivement de Bretagne pour emmener, grâce à ce 3 mois d'Armel Lecléac, sur les Dom-Tom. Et puis il reviendra par le nord, et puis ensuite Toulon, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, les Pyrénées Atlantiques, la Dordogne, la Charente, la Vendée, avant donc, je l'ai dit, donc la Bretagne, et puis ensuite le nord, l'est de la France, le Pas-de-Calais et l'Île-de-France. Ça va être magique quand même.
Ah oui,
64, ouais, 32 ont refusé malheureusement, 32 parce qu'il y avait un coup, c'est 32 qui ont refusé, mais 64 ont accepté, et ça sera un style Tour de France en plus, il y aura une caravane derrière qui suivra.
Oui, ça va être magnifique hein, pour mobiliser tout le monde. Enfin, tout le monde a l'occasion de participer aux Jeux Olympiques en voyant la flamme passer. Donc c'est très bien qu'ils aient organisé de cette façon.
Alors justement, Armel Lecléac, celui qui va récupérer donc, la flamme donc, en Bretagne, qui ensuite repartira vers le cap au nord pour qu'elle revienne, eh ben, il nous explique qu'ils ont un défi, il faut respecter le timing. Et en plus, vous allez voir, il va emmener quelques sportives et sportifs bien connus de renom. On connaîtra les noms dans quelques jours, mais à condition qu'il n'y ait pas le mal de mer. Armel Lecléac.
Avoir un drôle de passager à bord de Banque Populaire. Racontez-nous comment ça va se passer, tout simplement.
Ouais, c'est une mission un peu particulière pour nous. On a cette grand honneur de traverser l'Atlantique avec la flamme à bord du bateau. Ça ne s'est jamais fait. Donc nous, on va partir le 7 juin de Brest avec la flamme à bord. On va l'amener en Guadeloupe. Donc une traversée d'environ une semaine. Donc il faudra bien sûr surveiller la flamme, qu'elle reste allumée. Donc on va la mettre à l'intérieur du bateau pour... justement être à l'abri notamment de la mer, des vagues, du vent, et puis on va aussi lui fabriquer un support pour qu'elle soit bien en place, parce que ça bouge un peu quand même sur un bateau, notamment un bateau rapide, ça devrait bien se passer.
Vous partez avec qui alors? Racontez-nous un peu le profil de ceux que vous allez recruter.
Ben, en discutant avec Paris 2024, l'objectif c'est de mettre en place un équipage de légende, des hommes et des femmes qui ont une histoire avec les Jeux Olympiques. Une liste de personnes sont en train d'être mises en place. On attend un petit peu encore pour donner la liste définitive. Mais ce sera des gens qui auront, pour certains, sûrement la première fois une traversée de l'Atlantique. Moi, j'ai juste demandé qu'ils aient un petit peu le pied marin. Parce que c'est vrai que c'est pas anodin de traverser l'Atlantique sur un bateau tout court et sur un ultime encore moins. Surtout que ça va aller très vite. Mais je crois que ce sont des gens... Il y a déjà beaucoup de candidatures. J'ai discuté tout à l'heure avec Brice Guillard qui travaille pour les Jeux, et il m'a dit bah là, depuis qu'on a annoncé, mon téléphone n'arrête pas de sonner, donc je pense que le choix va être compliqué.
Ils sont tous en train de faire une formation accélérée de marin?
C'est ça, ils ont un an pour y arriver, donc moi je serais très heureux. On sera limité à 7 personnes à bord. Moi j'aurai mon co-skipper parce qu'on a quand même besoin de maîtriser le bateau. Ça reste comme un géant des mers. On est un bateau qui fait 32 mètres de long, qui peut aller à plus de 40 nœuds, donc il faut que nous aussi on assure la sécurité. Mais les 5 autres équipiers et équipières seront des novices pour la plupart sûrement. On essaiera, je pense, avant de faire quelques navigations d'entraînement à Lorient pour qu'ils aient un peu prendre en main un peu le bateau et l'envergure de la machine.
Combien de temps pour traverser? Vous arrivez à être assez précis sur les timings?
Ouais. Être précis, c'était les contraintes qu'on avait avec Paris 2024 sur la flamme, parce qu'il est assez calé. On a vu tout à l'heure à la présentation. Donc nous, on part le 7 juin en soirée de Brest. Il faut qu'on soit le 15 juin à 8h du matin à Pointe-à-Pitre. Voilà, donc à nous de gérer avec la météo les aléas pour être au rendez-vous. On s'est donné un petit peu de marge. On a travaillé sur la météo des 20 dernières années à cette époque-là pour justement avoir suffisamment de marge et de sécurité. Et puis ensuite, 24 heures après, on amènera aussi la flamme en Martinique. On partira de Guadeloupe donc à 8h du matin le 16 et elle arrivera en Martinique. Et ensuite, nous, on ramènera le bateau en France. On l'amènera ensuite à Marseille, où le bateau sera présent pour les épreuves de voile qui auront lieu pendant ces Jeux Olympiques.
Voilà, donc pour Armel Lecléac, sacré défi quand même. Hein.
Ah oui, hein? Amener la flamme sur un bateau.
Oui. Puis il y a un temps imparti, faut pas de contraintes mauvaises de météo, sinon on respectera pas l'engagement. Hein.
Non, ouais. C'est sûr. Bon, après, c'est un sacré professionnel.
Il n'y a pas de sportifs ou de sportifs du Stade français, à votre connaissance.
Nous, on en espère au jeu, voilà, à notre connaissance, pas encore, mais on espère qu'ils vont être contactés.
Alors, on a eu un sportif médaillé olympique qui fait de la voile aujourd'hui, c'est Jean Galfion, qui était stadiste.
D'accord, c'est vrai.
Alors, je ne sais pas s'il s'est porté candidat, mais...
Ah oui, quel sportif, Jean Galfion, champion olympique.
Oui, il a fait la route du Rhum. Cette année.
Oui. Mmh. Allez, on avait eu le frère il y a quelques mois lors des Paralympiques. On l'avait interviewé puisqu'il était parrain de cette journée. On a eu la sœur, une des plus grandes championnes du sport français, Laure Manaudou. Je l'ai dit, elle est marraine et elle va participer elle aussi donc au relais de la flamme et elle s'y prépare déjà.
Merci. Merci.
honoré. Qu'est-ce que ça fait d'être nommé un chef d'équipe?
Bah déjà, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai l'impression d'être dans un bassin. honoré d'avoir ce rôle-là et que Tony nous fasse confiance, c'est, pour moi, c'est un gros remerciement et de beaux moments de partage à venir. On a eu la chance de manger avec lui hier, avec Flo et Brice. Donc, on s'est rappelé les dinosaures 2004. Donc, je pense que ça va être une belle aventure.
Tous vos souvenirs de la flamme olympique
qui si j'ai des souvenirs, malheureusement non, puisque c'était il y a 20 ans, malheureusement. Le temps passe vite, mais en tout cas sur les vidéos que j'ai vues ce matin, c'est quelque chose de très émouvant. Et je pense que ça va être de grands moments d'intensité, d'émotion et de partage.
Alors ça représente quoi dans le...
Je pense que c'est un rêve. Qui va se réaliser en tout cas, d'avoir l'honneur de la porter et la responsabilité aussi. Donc, ça va être un grand moment. J'espère que tout sera réuni pour qu'on passe une année en tout cas magique et avec ce relais de la flamme qui est partagé aussi avec trois autres capitaines. C'est d'autant plus émouvant.
Vous imaginez déjà porter cette flamme?
Non, je ne visualise pas du tout, puisque ça fait pas longtemps qu'on a été choisi entre guillemets pour avoir ce rôle-là, mais je me laisse porter et je sais que ça sera magique.
Partager ça avec votre frère aussi, j'imagine que c'est quelque chose d'assez inédit et sympa.
Bah, ça a une saveur toute particulière forcément de le partager avec Flo. C'est le relais, c'est la passation aussi, même si moi ça fait un moment que j'ai arrêté, de le voir aussi continuer en activité et pouvoir vivre un rêve. De faire les Jeux à Paris, enfin, il n'est pas encore qualifié, mais c'est vrai que c'est une consécration pour un sportif de haut niveau. Donc, j'espère qu'il sera là et qu'il nous fera vibrer.
Vous savez quand est-ce que c'est la première fois que vous allez prendre cette torche?
Pour l'instant, non. On n'a pas fixé encore les dates et les possibilités, mais je pense que ça serait plus logique que moi, je reste du côté de la région bordelaise, puisque j'habite là-bas. Mais après, si on me propose d'aller à d'autres dates, je serai dispo. En tout cas, on a le droit d'apporter qu'une seule fois, donc faut pas que je me plante. Et je choisirai le bon créneau, en tout cas.
Merci beaucoup, Laure.
Merci.
Voilà. Bon, Laure Manoudou, vous voyez, elle est déjà prête. Hein. Elle est impatiente d'y aller. Allez, un dernier duo interviewé avec l'ensemble de nos confrères et consoeurs. Bah, c'est Marine L'Orphelin, qui est une docteure, hein, doctoresse, donc passionnée en tout cas de sport. Et puis Thomas Pesquet, qu'on ne présente plus, hein, le spationaute français, qui a été donc désigné lui aussi, je l'ai dit, comme un des ambassadeurs pour l'excellence et le dépassement de soi. Il avait déjà d'ailleurs porté la flamme dans sa cabine, hein, au moment des Jeux de Tokyo. On les écoute, eux aussi, bah, naturellement, ils sont déjà impatients d'y être.
C'est un honneur, ça représente quoi de porter la flamme?
Pour moi, c'est un immense honneur et je vais même plus loin, c'est un rêve de petite fille. Je suis très sportive, je l'ai toujours été dans toute ma vie. J'aurais aimé avoir le talent et les compétences pour être une athlète olympique. Ça n'a pas été le cas, mais du coup, je vis ce rêve aussi et j'ai vraiment à cœur de faire passer le message de ce relais de la flamme olympique pour mobiliser les Français, que tout le monde soit au courant, que tout le monde participe à cette belle fête et qu'on reporte haut les valeurs de notre pays et les valeurs du sport.
200 mètres à faire,
c'est jouable. C'est jouable, ouais, c'est jouable. On trouvera peut-être des manières originales de les faire. Je ne sais pas si on peut les faire en moonwalk ou un truc comme ça, mais... non, pour moi c'est important, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Marine. Pour moi aussi le sport c'était important, ça l'est dans mon métier professionnellement, mais c'est aussi pour moi une passion depuis que je suis tout petit. Et puis je trouve que c'est... Moi, j'ai été amené un petit peu à représenter la France dans ce que je fais sans l'avoir vraiment cherché ni voulu, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des gens aux États-Unis ou ailleurs qui arrivaient à connaître la France à travers l'activité d'un spationaute français ou qui connaissaient l'Allemagne à travers l'activité d'un spationaute allemand. Donc, on a le drapeau sur la manche et puis on veut donner une bonne image. Et ben aujourd'hui c'est un peu la même chose qui se joue. On a envie d'accueillir le monde, on a envie que le monde se sente bien chez nous, reparte avec une bonne image et que ces jeux ça rassemble. On a plein d'occasions de se diviser aujourd'hui à travers le monde. Il faut vraiment insister, moi je pense, il y a du travail à faire sur les occasions de se rassembler.
Projeté sur 200 mètres, vous imaginez ?
Non, pas tellement, parce que alors 200 mètres, c'est plusieurs fois ça, bon, non, ça ira. Mais je pense que ça, il va y avoir énormément de monde, hein, je pense. C'est un peu comme le Tour de France, des barrières des deux côtés de la route. Voilà, c'est complètement mon imagination, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais non, non, ça devrait être assez sympa. Je ne sais pas, Marie, toi, tu te projettes ?
Oui, j'imagine que ça va être très, très sympa, bien sûr. Voilà, moi, j'ai juste envie de célébrer un maximum avec les Français. Voilà, qu'on partage toutes ces belles émotions que le sport nous fait vivre. Voilà, ça va être le début de la fête. En fait, on va faire la fête pendant un an, ça va être génial.
Ouais, c'est ça.
Un dernier porteur de flamme, vous verrez qui, vous, à la cérémonie de l'ouverture? C'est une bonne question.
C'est... Là, faut pas se tromper.
Non, faut pas se tromper, alors attends. Non, mais est-ce que traditionnellement, c'est un sportif, non? Il me semble, pour le symbole. Il faut que ce soit un sportif qui représente la France et qui, surtout qui a un palmarès exceptionnel, une attitude exceptionnelle. Il y en a, j'en ai quelques-uns en tête, je ne vais pas me risquer à donner des noms.
Oui. On verra. Vraiment, cette question n'est pas très sympathique.
Ce serait bien que ce soit une femme, par contre, ça, ce serait pas mal. Parce que le logo des Jeux Olympiques est déjà sympa en représentant un peu un visage de femme, une coiffure de femme. On a vu que c'était les premiers Jeux paritaires, ça a été annoncé tout à l'heure en termes de nombre d'athlètes. Donc d'avoir une femme qui est le dernier porteur serait quand même un beau symbole.
Voilà, pour ces interviews, ce serait sympa. Hein. Et oui, vous qui faites beaucoup pour le sport féminin, justement.
Bah, je ne sais pas, nous, on pense à Marie-Josée Pérec, par exemple.
Oui,
c'est un
bel
exemple, bel athlète.
Bien sûr, voilà. C'est sympa en plus.
Statiste.
Oui, non, sympa en plus, Marjo.
Voilà. Voilà, donc... Mm-hmm.
Le sport féminin, c'est bon, on en a parlé sur notre antenne aussi. C'est une de vos priorités, tout comme le sport handicap d'ailleurs.
Oui, voilà.
Alors justement, on voit qu'il y a des parrains handicapés aussi. Il y a des dans cette flamme du relais. Bon, et puis il y a aussi la parité. Donc, ce sont des sujets très 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 importants de nos jours. Hein.
Bah, on essaye au stade, en tous les cas. Bon, alors déjà dans toutes nos instances, hein, nos instances sont paritaires. C'est quand même 40% de femmes le Stade Français.
Oui, bien.
De sociétaires. Et puis surtout, on a beaucoup d'équipes féminines et on a eu depuis le début. C'est-à-dire, c'est pas simplement ces 10 dernières années où on s'est dit, tiens, le sport féminin, on se rend compte quand on parcourt l'histoire du stade qu'il y a eu énormément d'athlètes de très haut niveau qui étaient féminines et soutenues et stadistes. Parmi les tennisman, il y a Suzanne Mathieu.
Suzanne Langlaine, Simone Mathieu.
Suzanne Langlaine.
Il y a un cours, il y a des cours à Roland-Garros d'ailleurs.
Et puis là, on a une équipe de basket, je disais tout à l'heure, en National 1. On a une équipe de volley aussi pro. On a vraiment un attachement à développer le sport, le sport féminin.
Oui, et le sport handicap.
Et le sport handicap, on a une section, une section handbike, donc avec Riyad, qui est un super ambassadeur, hein, puisque deux fois médaillé de champion du monde et médaillé aux Jeux. Et puis on a aussi en athlétisme, on a Valentin Bertrand, par exemple, je disais tout à l'heure. Voilà, il y a un vrai accompagnement. On essaye aussi dans nos sections de développer le sport santé, c'est-à-dire de former le tennis, par exemple, a eu est formé, le label sport santé.
Oui, voilà. On essaye de former docteur, nos études. Il y a même une doctoresse à la femme olympique aussi. Hein,
On essaye de former de plus en plus nos sections à pouvoir accueillir des patientes et des personnes. Pour vraiment, tellement nous sommes convaincus de l'importance de l'activité sportive.
Voilà. Donc vous avez été précurseur.
Je pense, en tous les cas, sur le sport féminin, c'est une certitude, parce que ça fait vraiment très très longtemps. Et sur le handicap, on a quand même des sections dédiées, et ça, c'est important pour nous, quoi.
Allez, après cette salve d'interview sur le dévoiement de la flamme olympique, c'était le 23 juin, journée olympique à la Sorbonne, on marque une deuxième pause musicale. C'est l'été sera chaud avec Chardin, et puis ensuite on se retrouve pour la dernière partie de cette émission.
Et même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. La Côte d'Azur à Saint-Malo.
pas lutter. J'ai pas dansé.
Voilà, sur le thème des vacances, hein, nos pauses musicales. Alors, juste un petit mot quand même. Sur la santé, vous aviez une petite anecdote à parler là, du Stade français. Là.
Oui, alors ouais. La première tennis santé, oui. C'est Simone Mathieu, qui était la fille du président du Stade français à l'époque et qui était asthmatique. Et on l'avait conseillé de jouer au tennis pour évoluer et se soigner. Et ce qu'elle a fait brillamment d'ailleurs, avant d'être résistante. Et aujourd'hui, avoir laissé son nom au terrain qui est à Roland-Garros. Ouais.
Vos installations, elles vont rester ouvertes pendant tout cet été. Ça me permet de faire la transition avec l'interview suivante qu'on va donc pouvoir vous diffuser.
Oui, 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 nos installations sont ouvertes. Alors, Géo André va fermer 10 jours début août, mais sinon, la faisanderie, le hara sont ouverts tout l'été, sachant que toutes nos sections, sur chacun de nos sites, on a des stages... multisport, on a des stages de tennis, on a des stages de basket, on a des stages de squash. J'en oublie, les sections vont m'appeler demain en me disant « Ah, tu nous as oublié ». Voilà, on a quasiment toutes nos sections qui font des stages pendant l'été. Et je rappelle, les stages sont vraiment ouverts à... Vous n'avez pas besoin d'être membre du Stade français. Donc, c'est ouvert à tous. Et voilà, il suffit d'appeler l'accueil, d'aller sur nos sites. Et voilà, et c'est important aussi de... Par exemple, la semaine dernière, il se trouve que les lycées, collèges ferment plus tôt. Tout de suite à la faisanderie... On a mis en place des stages multisports pour occuper les ados de 12-15 ans, voilà, qui sont pris en charge par des éducateurs pour leur donner l'occasion de pratiquer. Parce qu'on sait qu'un stage, c'est quand même important pour deux choses. D'abord, pour l'amélioration, parce que c'est quand même dense. Et puis, ça crée du lien dans un club, des stages, même s'ils ne sont pas délocalisés, je dirais, c'est quand même des moments importants avec les copains, etc. Donc, voilà.
Le vivre ensemble. Quoi.
Exactement.
Voilà. Moment de partage. Oui.
Voilà, c'est ça. Allez, pour clore cette belle semaine, après donc, la journée de la flamme olympique à la Sorbonne, vendredi, mercredi, c'était à l'hôtel de ville de Paris, la présentation par un stadiste, donc Pierre Abadon, maire adjoint des sports de la ville de Paris et du dossier donc de Paris 2024 et paralympique. Eh bien, un petit peu le point sur la situation actuelle du sport cet été, et puis aussi voir un peu ce qui va se passer en matière de grands événements. On a fait le point là aussi avec l'ensemble de nos confrères communs, avec Pierre Abadon sur cet été sportif qui nous attend donc à Paris. Bon, Pierre Abadon, on vient faire une belle situation du sport sur Paris ce matin.
Oui, une belle situation, en tout cas un document clair, précis et factuel qui nous montre D'abord, je pense, un état lucide de la pratique du sport à Paris, avec les difficultés que l'on peut connaître, mais aussi qui montrent tout le travail qui a été engagé, notamment depuis 2020, mais même durant les années précédentes, pour améliorer l'offre sportive, s'adapter aux évolutions des pratiques, réduire un certain nombre d'inégalités qui sont aussi très bien soulignées, montrer la répartition par sport, les offres sportives et les axes d'amélioration qui sont les nôtres, qui sont évidemment poussés par les grands événements internationaux que l'on reçoit depuis plusieurs années à Paris, avec en ligne de mire évidemment dès cet été les championnats du monde de para-athlétisme en juillet à Charletti, la Coupe du monde de rugby et puis les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc voilà, c'était pour nous important d'avoir cette synthèse de la pure, que je remercie pour son travail, qui nous montre le constat, les évolutions de ces dernières années et les tendances vers lesquelles il faut aller, avec un certain nombre d'informations clés, factuelles, qui nous montrent ce que l'on a bien fait jusqu'à présent et les axes sur lesquels il faut s'améliorer pour rendre la pratique du sport plus cohérente et plus facile, plus accessible dans la ville de Paris, en mettant en complémentarité l'offre publique qui est parfois pas assez connue ou méconnue. Donc il faut faire mieux connaître le développement des infrastructures qui est vraiment un facteur indispensable pour une bonne pratique, et puis la complémentarité avec l'offre privée ou la pratique libre qui s'est aussi beaucoup développée ces dernières années dans nos villes et qu'il faut encadrer ou accompagner pour qu'elle continue à prospérer dans les années à venir.
Oui, quatre gros axes à travailler en priorité.
Oui, quatre gros axes. Bon, pour les citer rapidement, mutualiser mieux les infrastructures sportives dans les établissements scolaires. On sait qu'à Paris, on a beaucoup d'établissements scolaires et c'est un axe, à mon sens, à développer. Ensuite, travailler sur une ville dans laquelle on a peu de foncier, mais dans les équipements sportifs, où on peut optimiser peut-être certains équipements en surélevant certains équipements ou en trouvant une réorganisation dans les centres sportifs qui permettent de créer des nouvelles surfaces sportives, travailler mieux à l'échelle de la métropole du Grand Paris et du foncier qui peut être disponible, ou en tout cas la complémentarité qui peut exister entre les villes, et puis enfin travailler sur des créneaux plus ouverts, plus larges, et notamment les week-ends, où je pense qu'on a encore un certain nombre d'améliorations à aller chercher pour avoir une offre la plus importante possible, parce que la demande est extrêmement forte. Et c'est aussi pour ça qu'on a une politique de rénovation nécessaire et très importante au niveau de la ville, qui est beaucoup plus rapide et accélérée que dans d'autres villes, parce que nos infrastructures sportives sont énormément utilisées, donc elles vieillissent aussi plus vite. Donc on est quasiment dans une course permanente à la fois pour entretenir et rénover et permettre à la pratique de continuer.
Peut-être est-ce qu'on peut revenir sur la programmation de cet été et notamment ce qui est destiné aux Parisiens. Il y a beaucoup d'activités gratuites.
Oui, c'est le créneau qui est le nôtre. Hein. Pour que le sport soit inclusif, il faut lever peut-être la barrière la plus importante, qui est celle du prix de la pratique. Et donc on met en place un certain nombre d'animations estivales, que ce soit dans les dispositifs Paris Sport Vacances, Paris Sport Dimanche, voilà, tout un dispositif qu'on peut retrouver sur paris.fr et qui est très explicite sur le sujet. Et puis tous les dispositifs autour de Paris Plage, les baignades estivales qui sont mises en place, les 5 baignades en quartier politique de la ville ou en quartier de veille active, pour les citer rapidement, Léo Lagrange dans le 12e, Carpentier dans le 13e, Jules Noël dans le 14e. Louis Lumière dans le 20e et Poissonnier dans le 18e, plus le bassin de la Villette évidemment, et aussi une baignade éphémère chaque dimanche du mois de juillet-août au niveau du canal Saint-Martin, avant évidemment en 2025 d'avoir des baignades grand public dans la Seine. Donc voilà, tous ces dispositifs sont maintenus, sont gratuits, sont mis en place avec des animations autour, c'est aussi important de le dire, des animations sportives. Qu'on le fait grâce à nos agents et à la filière sportive dont je tiens à saluer l'engagement, et de chaque année faire vivre aussi tous ces lieux et permettre à ceux qui partent pas ou peu ou moins en vacances de profiter voilà d'une période qui est une période singulière dans laquelle il faut pouvoir aussi se déconnecter de son quotidien, et voilà, c'est ce que ces animations ont pour but de faire.
Est-ce que vous misez sur la rénovation de la grande ceinture pour davantage favoriser le sport ?
Oui, alors c'est, on ne peut pas le faire partout, hein, parce que c'est la petite ceinture, pas la grande ceinture. mais peut-être qu'elle deviendra un jour grande, hein, j'espère. Mais vous savez, c'est un réseau ferroviaire, donc c'est, tout n'est pas modulable. Mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, on cherche à optimiser tous les espaces qui seraient encore disponibles, dans lesquels on pourrait faire des lieux de pratique sportive. Donc on regarde morceau par morceau s'il y a des endroits où il est possible d'installer de la pratique sportive et d'en faire des lieux d'accueil et de pérennisation de la pratique. Et puis voilà, on a aussi travaillé avec toutes mes équipes à l'instauration, la signalétique et la mise en place de parcours sportifs dans la ville sur deux axes qui relient les deux bois de Vincennes et Boulogne, et puis un axe nord-sud entre le parc de la Villette et le stade Charletti. Voilà, donc il nous faut, là, dans les prochains mois, finaliser tout ça, le rendre visible et le mettre à la connaissance de tous les Parisiennes et Parisiens qui font beaucoup de sport dans l'espace public et qui auront là un cadre meilleur où ils pourront identifier des points d'eau, des toilettes, des agrès, des espaces de pratique libre. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire et qu'on veut aussi déployer après à l'échelle des arrondissements. Mais c'est un travail qui est encore en cours puisqu'il faut le faire en lien avec chaque mairie d'arrondissement. Et donc, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois.
Est-ce qu'il y a des arrondissements justement particulièrement concernés par ces rénovations ou bien c'est réparti sur la totalité de Paris?
Quelle rénovation
Au niveau de, par exemple, des terrains de sport, de basket, etc.
Noté, quoi.
Ouais. Alors, on sait que les terrains, les arrondissements les moins dotés, c'est plutôt les arrondissements centraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important que nous soyons garants de l'équilibre de la répartition des créneaux, puisque vous avez moins de terrains de grand jeu dans les arrondissements du centre, qui sont encore plus denses que les arrondissements plus en périphérie. Hein. C'est comme ça qu'a été construit l'offre sportive à Paris, donc on est garant de ça. Mais non, il n'y a pas d'arrondissement plus que d'autres. Il y a des besoins, ils sont identifiés. Et je crois qu'il faut aussi prendre de la hauteur. On n'est pas dans des considérations politiques. On essaye de rendre une offre sportive la plus importante, quel que soit l'arrondissement, quel que soit le quartier, d'aller aussi sur des lieux dédiés dans les quartiers politiques de la ville, dans les quartiers populaires, où on doit avoir une offre sportive qui répond à la demande. Donc voilà, on les a tous identifiés. Vous le voyez très bien dans l'étude qui a été faite. Et il n'y a pas d'axe privilégié. On essaye de faire le plus que l'on peut. Et voilà, vous avez vu qu'on a déjà rénové ou construit 91 équipements depuis 2020. L'objectif est d'arriver à 175 à la fin de mandature. Donc on est vraiment sur des rénovations ou des constructions de très grande ampleur et un plan de charge très volontariste et un investissement qui n'a jamais été aussi important, je crois, précédemment. Donc c'est normal. On a voulu aussi l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques pour engager cette dynamique. Il faudra qu'elle continue au-delà des Jeux, mais elle a permis peut-être d'accélérer tout ça et on s'en satisfait. En tout cas, on ne baisse pas notre vigilance et notre volonté de continuer à rénover, amplifier, à améliorer l'offre sportive à Paris.
Justement, c'est un été avec des événements tests pour les JO. Qu'est-ce qui va être important de surveiller pour vous à l'approche de cette grande échéance?
Beaucoup de choses, hein. Évidemment, on a plusieurs événements tests, hein. Nage en eau libre au pont Alexandre III, triathlon et paratriathlon au même endroit avec les parcours similaires à celui des Jeux, et puis la finale sur les Invalides du tir à l'arc, tout ça sur le mois d'août. Donc le comité d'organisation va travailler un certain nombre de points techniques et logistiques. Nous, on va avoir des périmètres d'impact qui vont être moins grands que ceux des Jeux, mais ça va déjà nous permettre de travailler sur l'information, tout un dispositif qu'on va mettre en place, qu'on vous annoncera à la rentrée en lien avec la préfecture de police qui est en charge évidemment de la sécurité des Jeux. Donc ça va nous apporter un certain nombre d'enseignements. Le village rugby sur la place de la Concorde pour la Coupe du Monde de rugby va être aussi un test à plusieurs égards, mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails puisque d'abord ça pourrait fragiliser l'organisation ou donner des indications à ceux qui sont peut-être moins bien intentionnés. Mais évidemment, tous ces rendez-vous sont essentiels dans la bonne préparation des Jeux. La tâche est importante, mais je crois qu'à un an des Jeux, on est là où on souhaitait être. On n'a pas de retard sur la livraison des infrastructures. On a planifié le plan de charge. C'est un plan de charge très conséquent pour être au rendez-vous dans un an. Mais aujourd'hui, ces tests-là, ils sont essentiels dans la meilleure compréhension, notamment de l'implantation sur l'espace public et de l'organisation qui s'ensuit autour. Voilà, donc c'est un avant-goût, en tout cas. Et il faut aussi le dire, hein, tous ces événements tests Alors, pas la finale de tir à l'arc qui nécessite une billetterie, mais les autres événements test, notamment autour du pont Alexandre III et sur le triathlon, sont gratuits. Donc, on invite évidemment tous ceux qui souhaitent le faire, mais en particulier les Parisiennes et les Parisiens, à venir assister à un avant-goût des Jeux dès cet été autour de la Seine.
Pierre, ça sera un bel été en tout cas. Voilà, effectivement, ça sera un bel été. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal et Nathalie, de ce que vient dire votre stadiste, Pierre Rabadan? Ouais. Interview faite en commun hein, avec l'ensemble de nos confrères, comme pour Paris 2024 et la Flamme Olympique, c'est la tradition. Hein.
Bah, je crois qu'il y a une vraie volonté de la ville de Paris, ça c'est oui. Clair. Ce qu'il faut espérer, c'est que bah, tous les clubs soient, enfin que nous les clubs, on soit bien associés à ces projets et puis qu'il y ait un après. 2024.
Surtout ça qui est
important. C'est ça qui pour nous est important, c'est-à-dire qu'on peut être soutien de ces jeux et continuer notre investissement après quoi.
Pascal.
C'est ça.
Oui, tout à fait, parce que nous sommes effectivement des associations, donc pas là pour gagner de l'argent, mais pour animer. Donc c'est un plus aussi dans le sport, parce que c'est la pratique libre, c'est important, les installations, c'est important, mais les éducateurs, l'organisation, l'ambition, le projet sportif font aussi partie de ce qui permet de développer. Peut-être un dernier mot hyper
allez-y,
rapide.
Allez-y.
Effectivement, il n'y a pas assez d'installations sportives dans Paris. Et donc nous, on amène les jeunes à l'extérieur. Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, on a des bus qui partent donc, du 16e et qui vont dans le domaine de Saint-Cloud ou à Vaucresson pour la pratique terrain de grand jeu.
Eh ben c'est très bien. Allez, on va finir cette émission par la rubrique foot. Hein. On va retrouver pour la dernière fois de la saison notre ami Stéphane Desenclos pour parler un petit peu plus du mercato. Stéphane, bonsoir. Est-ce que Stéphane Desenclos m'entend? Non, apparemment, il y a des...
Oui, je vous entends très bien.
Là, c'est impeccable, Stéphane. Ça va bien?
Ouais.
Pour cette dernière,
un petit mot
d'abord sur la grosse déception de l'équipe, une nouvelle fois, j'allais dire, l'équipe de France Espoir, battue par l'Ukraine 3-1. Le parcours s'arrête en quart de finale. En temps normal, comme on le disait la semaine dernière, l'équipe de France n'aurait pas dû aller aux Jeux Olympiques. Mais comme là, on est pays organisateur, on y sera quand même.
Voilà. Bah, c'est le meilleur plan en fait, qu'on a trouvé pour jouer les Jeux Olympiques en foot. Et puis, vous allez voir que ça se trouve, on va les gagner. Hein. C'est pas. Donc on y sera, mais c'est vrai que c'était un peu pitoyable en plus quand on voit le déroulement du match, de la rencontre. Bon, ça s'est pas joué non plus à grand chose. Hein. Faut pas non plus. C'est vrai qu'on peut aussi tirer à boulet rouge sur Sylvain Ricol, c'est le cas, mais ça s'est quand même pas joué non plus à grand chose. Il y a un tir sur le poteau des Bleus juste avant, je crois plus dans l'ordre exact, le deuxième but ou même le but de l'égalisation, je crois, sur un pénalty très, très litigieux quand même, quoi. Un pénalty qui l'y est, hein, mais très litigieux, très, très. Et donc après, il y a des énormes erreurs et c'est vrai que, vu un peu quand même, cette équipe de France manquait quand même un peu de jeu collectif, à part, hein, moi qui m'a épaté, c'est sa petit lien avec les transferts, c'est le fait que j'ai trouvé extraordinaire. Voilà.
Mais enfin, ce qui est incroyable quand même, c'est que cette équipe de France Espoir, elle ne répond jamais présente au rendez-vous. Hein. Ils ont été champions d'Europe Espoir en 88. Bon, certes, on a été champion olympique en 84, mais depuis cette période-là, on fait qu'illusion, ce qui est quand même assez dommage.
Ah, mais parce qu'on voit clairement aussi quand même que c'est... je ne sais pas si le message est perçu comme ça, mais on voit clairement aussi que c'est une volonté aussi de la fédération qui n'est pas de mettre le maximum... pour cette équipe de France. Je crois qu'il y a des joueurs qui étaient avec Léa, qui auraient pu jouer par exemple avec l'équipe de France encore là. Donc je pense que peut-être il y a un message en subliminal qui dit que ça reste pas pour ces joueurs professionnels qui sont tous quasiment des joueurs, c'est même sûr, ce sont tous des joueurs de Ligue 1 ou de quoi qu'il y a de l'élite, hein, même si certains c'est à l'étranger, et puis il leur manque forcément quelque chose, et je pense qu'il manque, on pourra en parler pendant 100 ans, comme pour les Coupes d'Europe, pour les clubs français et tout, après c'est ce qui se passe en coulisses, c'est ce qui est là pour les mettre au niveau de leur donner l'état d'esprit de ce genre de compétition, probablement.
Bon, Stéphane, quoi de neuf sur la planète Mercato? Est-ce qu'on a avancé depuis une semaine?
On n'a pas énormément avancé.
Hernandez, peut-être?
Comment?
Hernandez, oui, au PSG?
Bien sûr, oui, voilà. Il y a Hernandez, Luque Hernandez qui a qui a signé au Paris Saint-Germain. Il y a quand même, si on veut considérer que c'est avancé, le club de Rennes, qui pour moi fait deux très, très, très bons coups sur ce mercato.
Blas,
ouais. Ouais, Blas et le fait. 25 millions quand même pour le fait, qui on l'a vu hier. Je pense que c'est un joueur qui est, je pense que c'est un joueur malgré tout, même si bon là il a été vendu 25 millions, donc ça veut dire qu'il est pas sous-estimé. Mais dans l'état d'esprit des gens qui regardent le foot et tout, je pense qu'il est quand même sous-estimé quoi. Je veux dire, moi j'ai vu hier, je regardais le match hier là. Et pour moi, il était au-dessus de toute l'équipe sans aucune difficulté. Et je pense que Rennes fait un très, très, très bon coup. Ce joueur est très jeune. Lui, il en veut. Et je pense que... Donc, bon, il y a ça, Rennes qui a pris Blas et donc le fait. C'est Hernandez qui va au Paris Saint-Germain. Bon, on avance doucement parce qu'on se rapproche de pas mal de choses. Les clubs ont... tous maintenant, si je ne m'abuse, ils ont tous un club, hein, oui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 jours, et on en parlait la semaine dernière, hein, ce qui était d'ailleurs même assez gravissime, même si certains n'ont pas encore été présents physiquement, hein, Marcelino à l'OM et Luis Enrique au Paris Saint-Germain, tous les clubs ont au moins un entraîneur, mais c'est grave, rien que d'entendre ça, c'est grave, alors que les clubs ont repris aujourd'hui. Et puis voilà, alors que dire, il y a plusieurs débats, il y a, comme je disais, les dossiers chauds, pour très vite parler de dossiers chauds pour nos auditeurs, il y a le dossier Pulisic à Lyon, alors... bien sûr, les médias se jettent dessus. Donc, il était en partance quasiment sûr et certain pour le Milan AC. Il avait donné son accord. Il en voyait partout fleurir des photos de lui. Et puis, il arrive Textor qui dit je mets 25 millions d'euros pour Pulisic. Donc, tout le monde s'emballe un peu. Et puis, en fait, bon, bah, comme. On l'a pu écrire sur le quotidien du sport. Parce que Chelsea est content parce que Milan n'en proposait que 14, mais Pulisic moins quoi. Parce qu'entre jouer au Milan AC qui est qualifié pour la Ligue des Champions et jouer à Lyon, même si Lyon est un grand club français et peut faire des belles choses la saison prochaine, il y a quand même pas photo quoi. Donc pour l'instant, effectivement, bah, le joueur il a réagi à cette rumeur en disant non, moi je veux pas y aller. Je pense que le Textor, je sais pas s'il a dit ça ouvertement pour mettre le bazar, pour être poli, ou si il croit vraiment que s'il pense qu'il va arriver à proposer plus d'argent à Chelsea et avoir le joueur à ce point-là, je pense pas. Même si on a vu. Là, donc ça, c'est pour le dossier principal de l'Olympique Lyonnais, qui est quand même un peu inquiétant comme club, hein, pour l'instant, hein, qui a strictement aucune recrue, qui a rien fait et qui reprend la saison. Donc, avec au contraire même des joueurs qui sont partis. L'OM, il y a le gros dossier OM. Alors nous, moi, c'est un petit peu la partie info. Je pense qu'il y a très très peu de chances aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les chances de voir Alexis Sanchez prolongé à l'Olympique de Marseille ont dangereusement diminué, pour pas dire être réduites à néant, quasiment. C'est ce que nous annonçons sur le site avec nos informations qu'on arrive à voir. Et il faut dire qu'on comprend assez facilement. Bah, officiellement, ils discutent avec Javier Ribalta, mais au moment où on se parle, Philippe, vous savez que il a pas de patron, hein. il a pas d'employeur, il est au chômage, technique, il est au chômage. Alexis Sanchez, il a une proposition de 10 millions d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte, quand même, si on se rend bien compte, 10 millions d'euros nets. Pour un an, avec une prolongation d'un an supplémentaire. Aujourd'hui, son salaire à l'Olympique de Marseille, c'est à peu près 3 millions d'euros par an. Vous enlevez les impôts, net d'impôts et net de charges. Vous enlevez les impôts et les charges, ça veut dire qu'il multiplie quasiment son salaire par 10. Il a 34 ans. Moi, je pense, on peut adorer le foot. Je pense que là, ça relève limite de la, de problèmes mentaux si jamais il accepte pas cette proposition. En tout cas, nos informations, c'est qu'il est sur le point d'accepter et qu'en fait, il va essayer peut-être de l'annoncer plus tard possible, mais qu'il prolongera pas à l'Olympique de Marseille. Après, il y a nos amis du Paris Saint-Germain, hein, toujours les débats, ça tourne autour de Mbappé, de Kane. Alors Kane, c'est la piste, elle est morte. Ben, pas forcément tant que ça, parce que Kane, il voulait aller au Real Madrid. Le Real Madrid a tout bloqué, ce qui agace pour Ancelotti, a tout bloqué pour Mbappé, donc ne fait plus de proposition. Le Bayern a proposé 70 millions d'euros quand le Daniel Levy, le président de Tottenham, en attend 90. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain peut avoir sa chance dans le dossier, mais ils n'en sont pas sûrs. Donc, on a relancé Kolo Muani, qui, de toute façon, a quasiment dit qu'il ne voulait pas signer au PSG. On a relancé Gonçalo Ramos, le buteur de Benfica, qui est quand même, je pense, un cran en dessous des joueurs donc, qu'on vient de citer. Donc, voilà pour le Paris Saint-Germain. Autre info intéressante à propos de Lens. Donc, Lens, il ne faut pas se voiler la face, hein, comme je vous le disais aussi pour Sanchez. C'est Kofofana, il a dû un pied et demi en dehors de Lens. Lens a d'ailleurs déjà son remplaçant, hein. C'est d'ailleurs marrant, hein, parce que c'est Andy Diouf qu'ils ont acheté pour 15 millions. Le type, il a 20 ans, il a été formé à Rennes, il était prêté cette année à Bâle, au FC Bâle, qui a validé, donc qui avait une option d'achat obligatoire, qu'il a validé. Je n'ai pas le montant là exactement de l'option, mais qui n'est pas très élevé, hein, peut-être 5 millions, quelque chose comme ça, et qu'il l'a vendu donc 15 millions à Lens. Donc ça, c'est fait, c'est acté. Strasbourg qui fait sa révolution, entre guillemets, pas sa révolution, mais les Américains sont arrivés et ils ont été rachetés donc par les anciens propriétaires, par les actuels propriétaires de Chelsea. Ils ont viré l'entraîneur et ils ont pris donc Patrick Vieira et ils ont bloqué les départs de Diarra et Diallo, qui étaient pour Diarra le petit jeune, la révélation, qui devait partir à Lens, quoi, qui pouvait partir à Lens, et Habib Diallo à Rennes, parce que Rennes a maintenant dans sa priorité le fait de chercher un avant-centre, un attaquant, parce que Terrier qui se remet de sa grave blessure, il sera pas sur les terrains avant fin septembre, début octobre dans le meilleur des cas, et puis à un niveau très correct, je pense pas avant la fin de l'année, quoi. Donc voilà le point général sur les transferts, Philippe.
Ok, ben Stéphane, merci en tout cas pour l'ensemble de vos interventions tout au long de la saison. On s'est régalé, hein, et puis on a un grand souvenir en commun, c'est le mondial, hein, novembre-décembre.
Ah oui.
Hein, que de souvenirs, ouais, hein, sur notre antenne. Ouais, hein,
super. Ouais. Hein, avec nos amis, puis des grands rendez-vous, des grandes rencontres, voilà. Aussi, quoi, des rencontres, c'était super, super.
Absolument. Et puis on va saluer l'équipe qui est souvent intervenue sur le foot, hein, Abou, El Hadji, Valentin, Antoine et Juliette, avec parfois des débats, j'allais dire pas enflammés, mais passionnés, hein, comme le foot le donne, hein, voilà.
Et tout à fait, exactement, voilà. Et comme on en voit partout sur beaucoup de plateaux, beaucoup de radios et tout ça, c'est vrai que c'est pas... Pas évident. En tout cas, bah, merci à vous. Et puis, on se retrouve maintenant.
Bel été, le 11 septembre. Le 11 septembre.
Le 11 septembre pour la première. D'accord.
Hein, pour la première.
Ok, allez, bah, bonne soirée à tout le monde.
Merci Stéphane. Bel été. Alors, voilà.
Au revoir.
Voilà donc pour le dernier rendez-vous de notre ami Stéphane Desenclos. Le mot de fin, hein, parce qu'on a une émission très dense, très riche, très chargée, très olympique. Le mot de fin, à tour de rôle.
Bah écoutez, rejoignez le stade, je pense.
Voilà, c'est ça.
Grand club. Hein,
c'est une philosophie de vie, c'est un état, voilà, c'est un état d'esprit. Voilà.
Tout à fait.
Oui, faites du sport et faites faire du sport. C'est...
Bah voilà, ça sera le mot de fin, ça sera voilà notre dernière émission de la saison qu'on pourra retrouver en podcast comme toutes les émissions de cette saison et puis elles seront même durant tout l'été rediffusées. Merci à Jason et à Gay, hein, ça n'a pas toujours été évident, pour la mainmise sur cette émission tout au long de la saison. On part en vacances, on se retrouve le 11 septembre, même si on aura quand même les paramondiaux à vous faire vivre sur notre antenne dès la semaine prochaine du 9 au 17 juillet. Et puis on n'oublie pas aussi votre tournoi de tennis, hein, on va rappeler, hein, avec des finales donc à Roland-Garros le 16.
Le 16 juillet. À partir de 9h.
Merci en tout cas. Hein. À très bientôt. En tout cas, on aura l'occasion de se revoir en d'autres circonstances.
Hein, d'accord. Merci
pour
beaucoup.
Pour d'autres événements. Voilà. Allez, on finit tout un symbole avec Vacances, j'oublie tout. C'est le groupe Élégance. Merci pour votre immense fidélité et rendez-vous donc le 11 septembre. Bye bye. Salut.
J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Résister, restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable et bercé par les vagues. Petit corps bronzé, dévêtu de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit. Petite boîte de nuit, soirée champ et whisky. Ambiance folie toute la nuit.
Avec bison fêté, je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers et des jours sans problème. C'est la vie que j'aime, pas besoin.